Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une agréable journée et que vous êtes maintenant agréablement installés chez vous puisque c'est votre libre antenne qui démarre avec un peu de retard, soirée de football oblige, mais nous sommes bien là, là pour vous écouter, chers amis, pour vous entendre nous apporter vos témoignages sur votre passé, des témoignages sur votre quotidien, sur maintenant, votre présent. De quoi est-il fait ce présent? Qu'est-ce qui l'empêche d'avancer comme vous aimeriez qu'il avance? Si vous avez envie de nous l'expliquer, toute l'équipe de la Libre Antenne est là pour vous écouter. 39-21, 50 centimes d'euros la minute. 7-39-21, suivi du mot nuit, écran en lettres majuscules, suivi d'un espace pour vos SMS, vos commentaires, vos questions. N'oubliez pas de signer vos SMS si vous voulez que j'en lise quelques-uns à l'antenne. Et puis il y a toujours notre adresse mail libreantenne@europe1.fr et notre groupe de parole Olivier Delacroix, Sabine Marin, la Libre Antenne, pour écrire à Natacha et Florian, et à Florian qui vous répondront dans les plus brefs délais. Mais sans plus tarder, allons-y, votre Libre Antenne du mardi, c'est parti.
La Libre Antenne d'Europe 1.
Et puis déjà un premier SMS s'excusant de la défaite des Parisiens. Non, je ne suis pas triste, c'est comme ça, c'est le sport. Le plus fort a gagné ce soir et c'est bien comme ça. On accueille Aline au 31. Bonsoir Aline.
Bonsoir Olivier, bien contente de vous entendre.
Mais moi aussi.
Et sachez que j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Alors quand vous dites, assise tranquillement sur votre fauteuil, bien écoutée, reposée, je vous fais savoir d'abord que le 17 février, je suis rentrée à l'hôpital Princesse Grasse. On m'a fait passer un scanner coronaire. Et immédiatement, le 18, Princesse Grasse m'a fait descendre à l'hôpital cardiologique thoracique de Monaco, le grand hôpital qui ne s'occupe que de ça, que du cœur.
D'accord.
Alors, le 19, quand je suis entrée le 18, on m'a descendu en bas le 18. Le 19, on m'a fait la carotide droite.
D'accord.
Et le 21... On m'a fait l'opération que j'ai subie, on m'a ouvert le thorax pour 2 pontages.
Oh là là.
Et je ne suis sortie que le 5 avril, parce que le 1er avril également, on m'a fait passer 2 stents, parce que ce n'était pas suffisant par le bras droit. On m'a fait passer encore 2 stents, parce que ça n'était pas suffisant pour ce qu'on m'avait fait au niveau des 2 pontages. Et à ce jour, bon, je suis encore un peu fatiguée.
Mais oui, mais vous revenez de loin, Aline.
Oui, c'est ce que m'a dit. J'ai eu un peu, à part la jambe, j'ai eu un peu la même opération que Michel Drucker. Alors hier, j'ai eu le médecin, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime aider mon mari à 87 ans, moi 79. Et lorsque je suis partie à l'hôpital, sachant que j'allais avoir une opération assez importante, je me suis fait beaucoup plus de mauvais sons pour mon mari qui a 87 ans que pour moi parce que j'ai toujours été comme ça, je n'ai jamais eu peur de la mort.
Oui.
Je me suis dit que si je devais mourir, tant pis. Seulement, je me suis fait des soucis parce qu'il ne s'occupe pas des comptes, ni de tout ce qui est prélèvement, ni rien, et que j'avais oublié de mettre en prélèvement l'EDF, voyez. Alors j'avais demandé, lorsqu'on m'a fait la carotide, si on pouvait me laisser sortir une semaine de façon à que je vienne et que sur mon ordinateur, je puisse mettre tout en route pour ne pas qu'il ait des problèmes et des soucis, mon mari.
Oui.
Alors ils m'ont dit, vous savez, Mme Candela, si vous attendez 5 jours, votre mari, Marius, ne vous reverra plus. Ben, c'est très urgent.
D'accord. Donc vous avez préféré arrêter. Quelqu'un s'est occupé de tout ça en votre absence?
Oh non, c'est plus tard que je l'ai fait, là, quand je suis sortie le 5 avril. Mais de toute manière, j'avais téléphoné, malgré que j'avais été opérée, avec encore mon pansement. J'avais appelé l'EDF depuis l'hôpital et j'ai demandé s'ils pouvaient attendre de façon à ce qu'on puisse mettre le prélèvement en route. Voilà. Et donc, pour vous dire, alors, avant de partir me faire opérer, j'ai eu, oui, quelques larmes et pas de peur de mourir. Simplement, je demande, j'aurais voulu revoir mon fils, celui dont je vous ai parlé, les problèmes que j'avais eus avec lui à cause de son couple, qui j'imaginais était un peu de sa faute, ce qui n'allait pas bien.
Oui.
Et que j'ai toujours un peu disputé lorsque je trouvais qu'il avait fait quelque chose qui n'était pas bien à faire, parce que mon mari et moi sommes mariés depuis 61 ans, et il a eu toujours du respect entre sa maman et moi, son papa très gentil, qui ne vivait que pour la maison, ses enfants. Et bon, donc tout cela, et vous savez, je vous avais expliqué ce qui était arrivé depuis le début, la première fois, vous vous rappelez ?
Oui, je me souviens que votre belle-fille est russe et qu'il était depuis plus de 10 ans avec elle et qu'il l'avait trompée, c'est ça ?
On s'est bien trompé, Olivier. Et moi, je l'ai disputé. La dernière fois que je l'ai eu, je crois que je vous l'avais dit. Je l'ai eu, je lui ai dit, mais pourquoi tu agis comme ça? Tu es parti de chez toi. Il m'a dit, oh, toi, tu crois que tout le monde est comme toi? Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Bon, alors, puisque tu ne me crois pas, parce qu'elle lui avait fait beaucoup de dettes et de frais, hein, puisque tu ne me crois pas, on s'est tout dit.
Et on en qui lui avait fait beaucoup de dettes et de soucis?
Eh bien, sa femme, Natalia. Russe. Oui, oui, elle s'appelle Natacha, mais elle se fait appeler Natalia. Hein,
d'accord.
Parce qu'elle ne voulait pas que ça fasse trop russe. Bon. Et oui, elle a fait beaucoup de dettes. C'est vrai qu'elle aimait s'acheter des choses un peu chères. Moi, elle me le racontait. Je lui disais, tu sais, à la Redoute, il y en a aussi beau et c'est moins cher. Hein. Bon, mais c'était, elle était comme elle était. Et moi, je ne suis pas le genre de maman qui m'occupe de la vie d'un fils. Maintenant, il fera 60 ans en juillet. Et elle va faire 52 ans. Ils ont 8 ans de différence. Elle est plus jeune.
D'accord.
Alors, pour vous dire, la première fois qu'il me l'a présentée, il s'était déjà marié avec elle. Bon, il est venu, je l'ai trouvée mignonnette, blonde, aux yeux bleus. Mignonnette, elle avait l'air très gentille. Et donc, moi, ce qui comptait, c'est qu'ils s'entendent, hein, les deux, hein, que le couple s'entende. Hein. Je ne voulais pas, qu'elle soit ni mignonnette, ni trop gentille pour moi. C'était sa vie et son couple qui devaient réussir. Alors, j'ai dit quand même à mon mari, mon Dieu, je ne sais pas, j'ai eu une drôle d'impression, mais je veux l'oublier. Je n'aime pas être comme ça. J'ai regardé son regard bleu et je l'ai trouvé. Il a trouvé chaussure à son pied, j'ai dit. Et cette fois-ci, il ne pourra pas faire comme il voudra. Ce regard froid qui ressemble au regard de Poutine. Voilà ce que j'ai dit la première fois.
La première fois, vous avez vu votre belle-fille russe ?
J'ai vu ma belle-fille, j'ai eu cette impression.
Oui.
Et je me suis défendue de penser comme ça.
D'accord.
Puis ensuite, bon, on ne se voyait pas souvent, hein, parce qu'elle était assez personnelle, elle n'aimait pas trop inviter. Bon, mais moi, c'était sa vie. On se téléphonait, Jean-Yves se téléphonait, il me l'a passé. C'est moi qui l'avais fait un petit barbecue, qui les avait invités. Ils sont venus, bon. Alors, figurez-vous que, bon, lui a laissé, maintenant, la situation a basculé. Lui a laissé son appartement. Il était parti vivre avec une dame très gentille qui habite pas loin de chez nous parce que maintenant, nous habitons en pleine ville de Menton, près de la gare SNCF, la mairie de Menton, et près de tous les commerces. Hein. Depuis juillet 2020, nous sommes ici. Bon, et alors, cette dame qui est de Menton m'a dit, bon, c'est vrai que Jean-Yves est venu vivre avec moi. Et d'après ce qu'il me racontait, votre belle-fille, c'est pas...
Oui, mais c'est votre nouvelle belle-fille qui vous dit ça.
C'est pas ma nouvelle belle-fille, non. C'est une dame qui a essayé de... Il a essayé de... Il est allé vivre un peu avec elle.
Oui, mais il était avec elle.
Non, il n'est plus avec elle. Il a disparu.
Ah là, il a disparu.
Je vous ai vous rappelé depuis longtemps, Olivier, mais je n'ai pas osé le faire, je n'ai pas voulu y revenir. Et tous ces soucis, je ne sais pas si ce sont tous ces soucis qui m'ont rendu malade à ce point. Enfin, n'empêche que cette dame-là aussi, je l'ai eue au téléphone et elle m'a dit, voilà, depuis un an, je n'ai plus de nouvelles de Jean-Yves. Il a disparu. Et j'ai essayé de savoir ce qui s'est passé. Je savais qu'avec sa femme, ça n'allait pas. qu'il avait laissé son appartement, elle a tout gardé. Elle a gardé tout ce qu'il avait dans son appartement. Et donc, il a disparu sans me donner de raison. Et je ne sais pas ce qu'il est devenu. Alors, je dis, moi, justement, je vous appelle parce que j'ai su qu'il a vécu un peu avec vous. Et je vous appelle pour savoir. Elle me dit, oui, ce que je sais, c'est que je n'ai rien à lui reprocher. Il était très gentil. Seulement, je lui en veux parce qu'il ne m'a pas donné de raison. Pour quelle raison il n'a plus donné signe de vie et il a disparu. Alors, figurez-vous que petit à petit, nous avons appris pas mal de choses sur ma belle-fille. Moi, j'ai continué à essayer de faire attention à elle, de savoir comment elle vivait, si elle était bien. Alors, parce que Jean-Yves, bon, avait laissé l'appartement, il ne payait plus, lui, le loyer. Alors, elle me dit qu'elle avait trouvé un petit travail, qu'elle s'était mise en contact avec une assistante sociale, qu'elle allait s'occuper de son divorce. Et elle avait l'air très, très, très cool.
Oui.
Bien tranquille. Moi, je me faisais beaucoup plus de mauvais sang pour elle que je me mettais en contact de savoir si elle était bien, si on allait la mettre à la porte, qu'est-ce qu'elle est arrivée. Non. On me laisse à la maison, j'y reste. Bon. Et puis, j'ai appris par la suite, parce qu'elle me disait qu'elle n'avait pas beaucoup d'amis, j'ai appris par la suite qu'elle était en contact avec des amis tchétchènes.
Mais c'est-à-dire elle a des amis sans doute de nationalité russe ou tchétchène, mais ça c'est bon, c'est
Non, c'est des amis, je crois qu'elle a un ami.
Ah oui, un ami.
Oui, moi j'ai pas cherché à comprendre. Hein.
Vous savez, elle n'est plus avec votre fils, donc c'est normal aussi qu'elle fasse sa vie un peu, hein, je pense.
Oui, je vous l'avais dit. J'avais même dit, écoute, si lui vit avec une autre, eh bien, que veux-tu ? Je vous l'avais dit. Et vous m'aviez répondu, en ce moment, elle n'a pas envie certainement de se mettre avec quelqu'un d'autre.
Mais non.
Je lui avais même dit, s'il est avec une autre, eh bien, toi, écoute, tu es bien, tu es mignonnette, tu peux refaire ta vie, toi aussi. Vous voyez, je lui avais même dit ça.
Ouais.
Elle m'a dit, oh non, moi, je veux personne, j'y tiens pas. Je suis bien chez moi, bon bref. Entre-temps, elle avait deux chiens, elle en a perdu un. Et elle a accusé le voisin d'avoir empoisonné son chien. Parce que, paraît-il, le voisin ne l'aime pas beaucoup. Et elle a empoisonné un de ses chiens qui est mort. Bon, elle a fait incinérer son chien, elle me l'a dit. Il lui en restait un. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il est devenu son deuxième chien, ni ce qu'elle et elle, parce qu'elle s'est mise sur... répondeur, hein, on peut pas la voir en ce moment. Alors je voulais la voir parce que je l'ai invitée moi avant Noël. J'ai fait un petit repas, je l'ai invitée. J'ai pas parlé de leur couple. J'avais dit à Marius, mon mari, on parlera de rien, on la laissera, on va manger, on va passer une bonne petite journée, et puis c'est tout. Alors elle est arrivée de Nice par le bus dans notre nouvel appartement là à Menton, et puis elle savait le bus qu'elle devait prendre et elle m'a dit « Oh, je sais, je connais, je viendrai en bus ». Elle est venue, on a mangé, on a passé la journée, on n'a pas parlé, elle était cool, elle était plus cool que moi, plus heureuse, hein. Elle riait bien, tranquille, ça m'a paru un peu bizarre. Oui, elle avait la maison, elle m'a dit « Ça va, on mange la maison, ça m'est égal, qu'il fasse ce qu'il veut, l'assistante, elle s'occupera ». Après, par téléphone, hein, on a parlé de ça. Elle s'occupera du divorce, on verra bien. Bon, Et là, il a disparu complètement. Et moi, mon mari, le pauvre, n'arrête pas d'appeler son numéro de téléphone. Et ce n'est pas lui qui répond. C'est une autre voix d'un autre monsieur.
Et il dit quoi, ce monsieur ?
Alors, il dit tout de suite, le téléphone sonne pendant 3 fois.
Oui.
Et au bout d'un moment, ce monsieur dit « Je ne peux pas vous répondre ». Vous n'avez qu'à laisser un message.
Ah oui, d'accord. Alors, il tombe donc sur une boîte vocale.
Oui, peut-être,
d'accord.
Mais c'est une voix de monsieur. Ce n'est pas une boîte vocale comme Orange a l'habitude
d'accord.
de
Aline,
vous proposer.
On va marquer une petite pause, si vous le voulez bien, et puis on continue à vous écouter tout de suite après, d'accord ?
D'accord,
à
merci
tout de suite.
Olivier.
(23h45) sur Europe 1, vous êtes sur votre libre antenne, vous pouvez composer le 39-21. Florian attend vos appels et puis peut-être que nous aurons l'occasion d'échanger ensemble. Pour l'instant, nous sommes avec Aline, dont le fils a disparu depuis un moment. Vous me disiez que votre mari, Aline, faisait donc le numéro souvent.
Tous les jours. Hein.
Parce qu'il a son entreprise.
J'y ai passé presque 3 mois à l'hôpital, là, et il n'arrêtait pas de faire le numéro. Et c'était toujours ce monsieur qui répondait. Mais avant que je ne rentre à l'hôpital, moi-même, j'ai appelé ce numéro et j'ai dit, écoutez, je ne sais qui vous êtes, j'ai laissé un message, mais c'est le numéro de mon fils. C'est pour cette raison que j'appelle. Mais là, vous seriez bien aimable de me dire qui vous êtes et pour quelle raison vous avez le numéro de mon fils. Est-ce que c'est un numéro qu'on vous a octroyé ou bien qu'est-ce que... Voilà, mais personne ne nous a jamais répondu qui il était, ce monsieur. Marius aussi lui a laissé un message. Voilà, c'est le numéro de notre fils. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes? Bon, mais on n'a jamais eu de réponse. Bon, mais cette dame avec qui il a vécu, c'est ce qui m'a fait avoir un peu peur, m'a dit, vous savez, je vais vous dire. Moi, j'ai souvenir, il était très gentil, mais il avait eu des problèmes avec elle, elle lui mentait beaucoup. Je dis, ah bon, et moi, vous savez, j'étais pas là pour m'occuper de leur couple. Hein. Lui était à Nice et nous étions à Menton, mais vers la campagne de Menton. Ce n'est qu'en juillet 2020 que nous sommes ici en pleine ville de Menton. Et donc, mais moi de vous, je le ferai rechercher, m'a-t-elle dit, cette dame qui a vécu un peu avec lui. Elle m'a dit, parce que s'il n'y a pas de raison que depuis un an, je n'ai plus de nouvelles. Il a pris sa voiture, il est parti et plus de nouvelles. Je ne pense pas qu'il lui était chez lui pour voir sa femme et vous devriez le faire rechercher. Alors nous, ce que nous avons fait, nous avons demandé à Orange si Orange pouvait nous dire à qui appartenait maintenant le numéro qui était de mon fils. Et Orange m'a dit qu'il ne pouvait pas le faire, qu'il fallait passer par le commissariat. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons demandé au commissariat de Menton si c'était possible parce qu'on ne le retrouvait plus, que ça faisait un an qu'il avait disparu.
D'accord, mais vous avez peur de quoi, Aline, qu'il y ait eu quelque chose avec...
Oui,
vous ne savez pas du tout où il est.
Non, c'est pas du tout. Alors justement, comme il y a le confinement et que j'ai eu ces problèmes cardiaques, je ne suis sortie que le 5 avril. Alors hier, mon médecin est venu, m'a dit, écoutez, il sait très bien nos problèmes, nos soucis. Il les connaît, c'est notre médecin, c'est un jeune médecin, il est comme de la famille. Ne vous en occupez pas maintenant, vous n'êtes pas encore bien remise, attendez un peu. Mais nous avons l'intention, dès qu'on nous laissera le... Parce qu'on va se faire quand même vacciner pour avoir le droit de sortir un peu.
Oui, oui.
Alors, de façon à pouvoir aller sur Nice, taper chez le voisin...
Vous savez où vous ne savez pas où il habite? Il n'a plus de maison, plus d'adresse, plus rien?
Non. Puisqu'il était avec cette femme à Menton.
Et l'entreprise, en fait,
L'entreprise, c'est fini parce qu'on s'est mis en contact et on a vu qu'il n'avait plus l'entreprise.
Ah bon?
Il n'avait plus l'entreprise parce qu'il travaillait en partenariat avec un monsieur.
Oui.
Qui ouvrait plusieurs entreprises, comme des plombiers, l'électricien, voilà. Et donc, il se mettait en contact avec des artisans, et mon fils travaillait justement en partenariat avec ce monsieur. Alors, ce monsieur non plus, on ne peut pas l'avoir, parce qu'on n'arrive pas le retrouver, hein, là-bas sur Nice. Il a fermé tous ses commerces. Et on a simplement le numéro de Jean-Yves que mon mari ne cesse d'appeler, et l'adresse où il habite, mais là nous irons certainement peut-être dans une semaine dès que j'irai un peu mieux et nous allons taper chez le voisin voir si c'est quelque chose parce qu'ils estimaient bien mon fils et ils ne s'entendaient pas du tout avec elle.
Parce que c'est
voilà.
Plutôt inquiétant, dites-moi.
Oui, ça nous inquiète surtout pour la dame qui a vécu avec lui. Elle m'a dit, écoutez, moi de vous, Madame Candela, je le ferai rechercher.
Alors, ben oui, dis, oui, parce que si savez, personne ne s'occupe... Oui, mais enfin, il a 60 ans, mais si personne ne s'occupe... Vous voyez, si personne n'a signalé sa disparition...
Mon mari en a parlé au commissariat, et la dame qui s'occupait au commissariat a dit qu'elle allait faire le nécessaire. Mais aussi, elle a rajouté, vous savez, votre fils va faire 60 ans en juillet,
ben oui.
Et s'il n'a pas envie de donner son adresse,
il
et qu'il a eu quelques problèmes avec son épouse, avec qui il ne s'entend plus, qu'il a tout abandonné, c'est son droit. Mais on va essayer. Alors nous, on voit que le commissariat n'a pas bougé, on va le faire par nous-mêmes. Mais dès que j'irai un peu mieux, parce que dès qu'on peut bouger, parce que je peux pas laisser mon mari quand même, lui aussi a quelques petits problèmes de santé, aller seul. Oui. Voilà. Alors maintenant, moi, je voulais vous appeler, mais je n'ai pas osé le faire, parce que je vous avais raconté comme j'avais été sévère lorsqu'il avait fait des choses qui ne me plaisaient pas
du tout. Oui, hein. Mais vous aviez raison. Voilà. Hein, il n'avait pas.
Et donc, voilà, justement, de ce temps-là, quelques petites choses qu'il avait fait n'étaient pas bien, et je devais lui expliquer que son père, 61 ans de mariage, il n'a jamais vu ça chez nous. Voilà.
Il vous a répondu quoi d'ailleurs? Parce que j'entends monsieur qui parle derrière là.
Oui, le pauvre, ce qu'il vous demande, c'est si vous pouviez faire quelque chose pour savoir à qui appartient ce numéro.
Oh là, mais.
C'est le numéro de Jean-Yves, mais c'est la voix d'un autre monsieur qui nous répond. Et puis il y a beaucoup de hic. Parce que là, moi, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, Natalia, là. Puisque tu n'en as qu'une assistante sociale, que je t'ai demandé de te mettre en contact avec la mairie, que la mairie, c'est là où vous vous êtes mariée, à la mairie de Nice, que Jean-Yves a travaillé pour Nice, qu'il était connu sur Nice, tu dois quand même être au courant, vu votre situation de préparation de divorce, tu es obligé de savoir où il se trouve. Alors on m'a dit, oh non, c'est pas la peine de chercher, on verra, ça se passera comme ça. On m'a même dit que je peux divorcer sans sa présence.
Je ne suis pas sûr qu'elle puisse divorcer sans que lui signe des papiers, hein, vous savez.
Voilà, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit non, il me semble qu'il doit être présent pour signer son accord des papiers. Puisque maintenant, lui n'est pas du tout d'accord de revivre avec toi, alors donc il doit être présent.
Ça n'a plus rien à voir, ça, en fait, Aline. En fait, il y a pas mal de SMS qui tombent au 739-21. Celui de Martine, qui propose la solution de diffuser une photo de votre fils sur les réseaux sociaux, afin de savoir si quelqu'un a eu des nouvelles de cet homme, parce que à un moment, il va falloir que le commissariat prenne au sérieux vos demandes, parce que c'est une disparition inquiétante quand même, s'il ne donne plus de nouvelles à qui que ce soit. Qu'il connaissait, dont il était proche, c'est votre fils unique, il n'a pas de frères et sœurs.
Mes deux filles ne savent rien non plus, une est à Beaulieu et l'autre est sur Nice, d'accord. Mais elles ne savent rien de lui.
Et vous ne connaissiez aucun ami de votre fils? Il n'avait pas des copains d'enfance?
Il avait des amis ici à Menton, parce qu'il faisait partie de tout ce qui était musique rock sur Menton.
D'accord.
Et donc, et c'est justement un de ses copains que j'ai pu avoir qui m'a dit qu'il faut le faire rechercher. Mais le commissariat n'a pas bougé, c'est pour cette raison.
Parce que son copain vous a dit qu'il n'avait pas de nouvelles, lui non plus?
Non, ils n'ont plus de nouvelles, personne n'a de nouvelles.
Ah oui, non, mais c'est très inquiétant.
Justement, c'est ce que m'a dit cette dame avec qui elle a vécu. C'est inquiétant, parce qu'il était très gentil avec moi. Alors, je ne comprends pas que du jour au lendemain, ça fait un an maintenant, madame
Candela. Il a laissé ses affaires?
Voilà, oui, il n'est plus revenu. Et j'ai plus de nouvelles et on n'a pas eu de discussion, rien.
Elle n'a pas eu de dispute avec lui?
Non, elle m'a dit rien. Elle m'a dit même qu'il était très gentil et que peut-être que j'avais mal vu et que ma belle-fille n'était pas celle que je croyais. Voilà. Et en effet, elle est un peu trouble.
Oui.
Parce qu'elle me donne l'impression qu'on n'a pas à se faire de soucis.
Oui, qu'elle sait exactement ce qui lui est arrivé, en fait.
Voilà, que quelqu'un l'aurait aperçu en voiture, et qu'il a certainement du travail sur Nice, qu'il doit habiter Nice, et que quelqu'un l'aurait aperçu en voiture sur l'avenue principale de Nice.
Qui l'aurait? C'est elle qui vous a dit ça?
Oui, quelques amis à elle.
Non, mais il ne faut pas croire ce qu'elle vous dit, elle,
je ne crois plus rien. Et surtout qu'on ne sait pas pour quelle raison le voisin ne l'aime pas du tout, et c'est pour ça que nous voulions, nous, avant de faire ce que Martine nous propose, et je la remercie, de faire quoi que ce soit sur les réseaux. Moi, j'ai la photo de mon fils.
Oui, parce que vous voyez, Marie, aussi, du Finistère, dit que c'est très inquiétant, quand même, et très angoissant pour vous, bien évidemment, parents, d'être sans nouvelles de... C'est votre enfant,
ça m'a rendu beaucoup... Parce qu'avant de me faire opérer... J'ai dit à mon mari, j'aimerais avant qu'il ne m'arrive quelque chose pour voir le revoir et savoir où il est, simplement pour savoir si où il a disparu. C'est pas possible. Alors j'attendais avant de faire sur les réseaux ce que vous me proposez de faire, Olivier, c'était d'y aller, nous deux, mon mari comme moi,
où ça ?
D'aller là-bas chez lui. Il habite Vallon-Monary, bis 60 bis avenue Bornala.
Mais oui, mais
Nice.
Si vous me dites qu'il a, il n'y habite plus là.
Il n'y est plus, non, lui, il n'est plus chez lui, c'est elle qui est. Alors justement, je veux aller là-bas, taper chez elle, voir si elle est là, si elle nous ouvre. Sinon, eh bien, taper chez le voisin qui estimait bien Jean-Yves et savoir s'il a des nouvelles, s'il a aperçu dans Nice, ce qui me paraît drôle puisqu'il s'entendait bien avec cette dame du Bourigo. Le Bourigo se trouve pas loin de notre quartier, ici à Menton. Alors voilà, on attend de faire ça par nous-mêmes, mon mari et moi, puisque le commissariat nous a dit qu'il faudra attendre encore un peu parce qu'il y a eu le confinement, on peut pas tellement bouger. Mais moi, je pensais que le commissariat était en droit, au moins, de demander à ce numéro à qui il appartenait.
D'accord.
Voilà, c'est ce qui m'aurait... J'aimerais bien savoir à qui il appartient, parce que le téléphone sonne 3 fois, et ensuite, il y a la voix d'un monsieur qui répond « Je ne peux pas vous répondre, laissez-moi un message », et qui n'est pas la voix de mon fils.
Ça, c'est très curieux, et... Bon, oui. C'est très inquiétant. Hein. Valérie nous dit que ça sent vraiment l'histoire grave.
Oui. J'arrive pas à me remettre. D'ailleurs, le docteur sait, mon docteur nous connaît. Il est un peu au courant. Et puis, il sait que tout ça m'a rendu bien malade.
Hein.
Et là,
mais
j'arrive à me remettre petit à petit.
Vous m'étonnez. Ça n'est pas normal.
Parce que je veux y aller, même fatiguée, il faut que j'y aille. Et
parce que vous voyez, je pense sincèrement que ses copains à Menton, que ses copains n'aient plus de nouvelles,
non, c'est très curieux.
C'est très curieux.
Oui, c'est ce que tout le monde dit.
Mais oui.
Ouais. Et juste cette dame-là m'a dit, moi, Madame Candela, moi, je me ferai du souci, il faudrait le retrouver. Est-ce que c'est ce que nous n'avons pas cessé
Parce
de faire ?
Vraiment, du jour au lendemain, Aline, en
voilà.
Fait, la dame donc, avec qui il était, donc il habitait... C'était sa nouvelle copine, en fait, en gros.
Oui.
Bon, elle vous dit qu'elle n'a jamais eu le moindre...
Non, rien, plus rien.
D'accord.
Il est parti le lundi matin, et puis, bien, comme il faut, pas de discussion, et elle ne l'a plus revu.
Elle ne l'a plus revu du tout.
Non. Ça fait un an, exactement un peu, comme presque lorsque je vous ai téléphoné, pour vous expliquer
oui, tout ce qui se passait.
Bah,
écoutez, on va réfléchir le temps de l'info qui arrive sur Europe. On va réfléchir et puis je vais vous dire ce qu'il faut faire dans les premiers temps. D'accord ? Vous
oui,
restez avec
d'accord.
nous, on se reparle dans quelques
oui,
instants.
Entendu.
À tout de suite. Europe 1, il est minuit. Le journal de la rédaction, c'est avec Romain Noquet.
Paris laminé et Paris éliminé de la Ligue des Champions. Le PSG a été mis KO par Manchester City ce soir. Score final 2-0. Les Parisiens privés de leur star, Kylian Mbappé, est resté sur le banc des remplaçants à cause de sa blessure au mollet. Le joueur qui a assisté impuissant aux nombreuses attaques des Citizens. Cyril de la Morinerie, le PSG sort de la compétition par la petite porte ce soir.
Oui, le PSG a raté son match et est tombé sur une formation anglaise plus forte, mieux organisée, plus réaliste. Le joueur de City, Riyad Mahrez, originaire de Sarcelles, en banlieue parisienne, est l'homme du match. Il a inscrit un doublé. Déjà buteur au match aller, l'attaquant franco-algérien a mené avec brio les deux contre-attaques de Manchester. L'anglais Foden, qui a touché le poteau, aurait pu inscrire le troisième but. Du côté du PSG, c'est vraiment une soirée à oublier. Bien sûr, Marquinhos a touché la transversale et a failli égaliser, mais Paris n'a rien montré. Aucune frappe n'a été cadrée. Neymar s'est enfermé dans ses dribbles et les nerfs ont lâché. En fin de match, André Di Maria a écopé d'un carton rouge logique après s'être essuyé les semelles sur le capitaine des Citizens, Fernandinho. Avec ce succès, 4 buts à 1 sur l'ensemble des deux rencontres, Manchester City s'offre un billet pour la finale de la Ligue des Champions qui aura lieu le 29 mai prochain à Istanbul. Paris va maintenant préparer son déplacement dimanche à Rennes pour tenter de remporter un nouveau titre de champion de France dans son duel à distance avec Lille.
Merci Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Prochain match demain soir entre Chelsea et le Real Madrid. Le vainqueur affrontera Manchester City en finale. En Allemagne, ils sont vaccinés et libérés. Les personnes qui ont reçu leurs deux doses n'auront bientôt plus besoin de tests négatifs pour entrer dans les magasins. Elles pourront aussi participer à des réunions privées, même sans couvre-feu. Une double vaccination qui concerne 8% de la population allemande contre 10% en France. Plus de vrac dans les magasins, l'interdiction des avions publicitaires et le développement durable enseigné à l'école. Autant de mesures portées par le projet de loi Climat et Résilience adopté en première lecture à l'Assemblée nationale ce soir. Il arrivera en juin sur le bureau des sénateurs. L'épilogue du feuilleton politique en PACA. Après deux réunions de crise en 24 heures, les Républicains serrent les rangs et apportent finalement leur soutien à Renaud Muselier. Le parti a obtenu une garantie. Il n'y aura aucun ministre, aucun parlementaire LREM sur la liste du président sortant. Une mise au point en famille et la fin d'un psychodrame pour Renaud Muselier.
Aujourd'hui, il y a une clarification totale dans ma famille politique, dans le cadre de la ligne politique, et qui fait en sorte que je vais essayer d'avoir le rassemblement le plus large possible pour appliquer mon projet que je vais enfin pouvoir lancer, sachant que quand même, depuis dimanche, les turbulences sont fortes et que la semaine a été difficile, enfin, ces deux premiers jours ont été difficiles. Vous savez, je n'ai pas changé depuis le départ. Je suis LR, je dis que je veux additionner, je dis que je veux élargir ma majorité, je veux dire que je veux avancer, je dis qu'il n'y a pas d'accord d'appareil. Ces deux jours-là ont perturbé ma famille, ont perturbé les gens de droite, ont donné la possibilité au Rassemblement National de dire qu'eux, ils sont très forts et que nous, on est divisés. Ça, je le regrette. Moi, je suis pour l'unité et l'ouverture. Je pense que le grand vainqueur, c'est la clarification.
Renaud Muselier au micro à Hélène Terzian pour Europe 1. Et faute d'accord en PACA, la majorité présidentielle pourra toujours se rabattre sur le Nord. Gérald Darmanin, poids lourd du gouvernement, annonce sa candidature aux élections départementales. On reste dans le Nord avec l'histoire de cet agriculteur qui a tout simplement déplacé la frontière franco-belge, oui, pour agrandir son terrain. L'homme a décalé la vieille borne en pierre qui marquait la délimitation entre les deux pays. 2 mètres de plus pour la Belgique, donc pas de quoi déclencher une crise diplomatique. Le litige devrait a priori se régler à l'amiable. La Belgique, pour lui, ce n'est pas vraiment un bon souvenir. Napoléon Bonaparte, la bataille de Waterloo et bien d'autres, c'est à retrouver demain sur Europe 1. Émission spéciale dans le 18-20 pour les 200 ans de la mort de l'empereur le 5 mai 1821. Un coup d'œil à votre météo de demain. Anissa Dadi, bonne nouvelle, la journée sera un peu moins pluvieuse.
Ah oui, c'est une bonne nouvelle, Romane, même si, attention, la perturbation qui a touché la moitié nord du pays aujourd'hui va s'évacuer doucement demain dans la journée. Donc demain matin, nous aurons encore des Pyrénées jusqu'aux Alpes en passant par l'Occitanie et le sud du Massif central et puis même une partie de la Provence. Nous aurons encore dans ces régions quelques petites pluies, mais au fil des heures, le soleil va s'imposer et revenir sur quasiment tout le pays. Alors demain après-midi, nous aurons des nuages assez présents sur le ciel de toute la France. Une grande partie du pays est concernée par cette couverture nuageuse, avec tout de même quelques belles éclaircies. Donc on a vraiment une journée où le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. C'est dans le Grand Est, sur la Bourgogne, l'Alsace, la Lorraine, le Val-de-Saône, que là, les petites averses vont se produire encore demain après-midi. Sur les côtes de la Manche, le vent d'ouest souffle toujours. Et puis, sur le golfe du Lion, nous avons toujours cette tramontane qui reste sensible avec des rafales jusqu'à 70 km/h. Côté température, on a une légère hausse demain matin avec 3 à 14 degrés. 3 pour Nantes, 7 à Paris et Strasbourg et 14 à Perpignan. C'est dans le sud que ça grimpe. Et dans l'après-midi, c'est pareil. C'est plus frais au nord qu'au sud avec 12 degrés à Caen et Metz, 14 pour Saint-Étienne et Paris, 16 degrés à Biarritz, 17 à Bordeaux, 19 pour Toulouse, 22 degrés à Marseille, 23 pour Bastia et Montpellier et 24 la maximale pour Nice.
Merci Anissa Haddadi. Minuit et 5 minutes sur Europe 1, la suite de la Libre Antenne jusqu'à 1h du matin avec vous Olivier Delacroix.
Merci ma chère Romane, bonne nuit et à demain.
À demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer. Europe 1. 22h30, 1h, la Libre Antenne. Olivier Delacroix.
Minuit passé de 6 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez continuer à composer le 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Et si vous désirez intervenir sur l'antenne, par exemple par rapport au témoignage d'Aline, eh bien vous pouvez laisser votre numéro de téléphone sur ce message, ce SMS que vous nous envoyez au 739-21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace, comme Carlotta le fait ce soir, comme Christine, comme Josette, comme Fabienne, comme Marie, comme Valérie, qui sont très touchés par l'histoire d'Aline et de ce fils disparu. Christine nous dit que votre fils n'aurait pas été kidnappé par la famille de son ex-femme pour avoir des sous, par exemple. Aline, est-ce que c'est quelque chose...
Vous savez, elle est un peu bizarre, parce que bon, c'était une femme mariée en Russie. Elle a quitté la Russie. Moi, je leur demandais pas comment ils avaient fait connaissance. Je suis pas comme ça. J'aime pas me mêler. Si ça avait été une jeune femme, toute jeune, de l'âge de la première qu'il avait connue et qui était charmante, bon, bref, passons. Mais là, c'était une femme qui avait été mariée, qui a laissé des parents pas bien riches en Russie, oui. Et qui leur a laissé la garde de son fils d'un petit de 7 ans. Oui. Elle a abandonné le petit de 7 ans et un fils qui, lui, avait 18 ans, mais que les Russes ont fait rentrer dans l'armée. Et j'ai demandé si son mari allait voir quand même. Elle m'avait raconté que son fils était avec ses parents et si son mari allait voir quand même ses enfants, au moins le plus petit, elle m'a dit « Oh non, il est mort ». Mais comme ça, froidement. Je dis, voilà. Ah bon, et de quoi? Oui. Elle me dit, oh ben, j'en sais rien, il est mort.
Elle est spéciale.
De toute manière. Ah oui, oui. Et là, dernièrement, j'ai dit, bon, mais tu sais, Natalia, bon, c'est Natacha, mais moi, je l'ai appelée Natalia, je veux qu'on l'appelle Natalia. Natalia, t'es un ami tchétchène, c'est bien, t'es pas toute seule. Elle me dit, oh non, moi, vraiment, elle s'est mise en colère. D'un coup, je dis, non, elle te met pas comme ça. Mais moi, je suis pas raciste. Et en effet, Olivier, je suis pas raciste du tout. J'aime pas ça. Quand on est bien, ils sont les bienvenus chez moi.
Bien sûr.
S'il y a quelque chose qui est tordu, ben écoutez, chacun fait sa vie de son côté, hein. Mais je suis pas raciste. Alors on me dit, oh, il faut pas moi. Ben oui, c'est un tchétchène, c'est pas la même religion. Mais je m'en fiche, hein. Moi, je suis pas raciste. Je me dis, te mets pas comme ça, moi non plus. Je te dis simplement que tu n'es pas seule. Elle me dit, non, mais depuis qu'on sait que sa famille, à lui, le Tchétchène,
oui.
A de la famille à Avignon, là où ils ont décapité un professeur, eh bien, il y en a beaucoup qui me font la tête. Je dis, ah, mais moi, je rentre pas. Bien sûr que le pauvre, il a passé un mauvais moment et c'est pas des choses à faire. Que ce soit les Tchétchènes ou des terroristes islamistes, ils n'ont pas, ils ont pas
à faire
des choses pareilles.
Bien sûr, bien
bon.
Sûr.
Alors, elle s'est mise un peu en colère. Je dis, mais ne te mets pas comme ça. Je dis, bon, et j'ai essayé d'être gentille parce que comme elle avait perdu son chien, alors elle m'avait fait beaucoup de peine. Elle avait pleuré. Mais là, elle est autre. Elle est devenue...
Est-ce que vous avez essayé... C'est Marie du Finistère... qui envoie ce texto? C'est Carlotta qui vous demande si vous avez envoyé un texto à ce numéro, le numéro de votre fils, hein, jusqu'à présent,
oui.
Pour demander pourquoi, en fait, cette personne-là est détenteur de ce numéro, alors que ce numéro appartient à monsieur et vous nommez votre fils. Est-ce que vous avez essayé
oui.
d'envoyer un texto comme ça?
Eh bien, j'ai essayé, mais ça ne donne rien. Hein.
C'est-à-dire, on ne vous répond pas?
Non, on ne me répond pas du tout.
Ce que vous allez faire, à la fin, vous ne raccrocherez pas et vous
oui.
donnerez à Florian le numéro
oui.
de téléphone, hein, ainsi que le nom et le prénom de votre fils. Comme ça, on va essayer,
d'accord.
nous, de prendre quelques renseignements.
Oui,
si vous
c'est
voulez
ce que
bien.
Je voulais que le commissariat de Menton fasse. Alors, ils m'ont dit, attendez un peu, dès que toutes ces histoires de confinement... toutes s'arrêteront, eh bien, on fera le nécessaire.
Non, parce que là, ça fait
moment...
un an qu'il a disparu, votre fils, donc c'est
mais
très,
j'ai dit, mais
très
vous,
inquiétant.
Vous, quand même, j'ai même téléphoné aux gendarmes, j'ai dit, mais vous, les gendarmes, quand même, vous pourriez au moins demander à qui appartient ce numéro, vous êtes en droit de le faire. Et là, ils m'ont dit aussi, parce que Marius lui avait fait le nécessaire, mais de mon côté aussi, hein, sans que je le lui dise à Marius, je m'en occupais. Mais vous savez, il va faire 60 ans, s'il ne veut pas que sa femme sache où il se trouve, et même vous, il est dans son droit.
Oui, mais c'est quand même,
alors, je dis, c'est quand oui,
même
mais
inquiétant.
Moi,
c'est quand même inquiétant.
Moi, il y a quelqu'un avec qui il a vécu en laissant sa femme qui m'a dit qu'on devrait le rechercher parce qu'elle-même se demande où il est passé.
Vous m'avez bien dit que c'était votre fils unique, hein, qu'il n'avait ni frère
ah,
ni
oui,
sœur.
Ah oui, oui, j'ai un fils, c'est l'aîné.
Oui.
Puis après, j'ai deux filles.
Ah, donc il n'est pas fils unique.
Non, non, non.
Et
non,
ses deux sœurs.
Garçon, ils ne savent rien, ils ne savent rien.
Elles ne savent rien, elles n'ont aucune nouvelle de leur frère.
Non, et pourtant il y en a une qui est à Nice, mais.
Et elles étaient proches rien. Elles étaient proches de leur frère
Eh bien, j'en ai une qui habite à Beaulieu, hein.
Oui.
Elle est plutôt près de Monaco, et elle n'a plus de nouvelles non plus, parce que de temps en temps ils étaient en contact, même ils s'invitaient au restaurant par moment, et l'autre, alors, elle n'a pas de nouvelles du tout, elle est sur Nice. Elle a essayé,
c'est très curieux,
mais
très curieux,
oui,
très
curieux. C'est curieux, c'est ce qui nous rend malades. Et mon mari, tous les jours, même je crois qu'aujourd'hui, la fille a encore appelé ce numéro. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est la voix de monsieur qui n'est pas du tout le genre de message qu'Orange vous propose. C'est la voix de quelqu'un, d'un homme, quoi.
Bah ça peut être un répondeur, vous savez, personnalisé, ça c'est pas... Orange,
ah bon.
Vous pouvez enregistrer vous-même votre répondeur vous-même,
oui,
vous voyez. Bon, en tout cas, première chose à faire, c'est de prendre une photo de votre fils et de le diffuser sur le plus de réseaux sociaux possible. Si vous le voulez bien, ça serait bien que vous nous envoyiez une photo de votre fils, comme ça on va pouvoir mettre sa photo sur le groupe de parole de la Libre Antenne. Déjà, ça fera déjà pas mal de personnes qui pourront partager. Vous savez comment faire pour nous envoyer par mail la photo de votre fils ?
Oui,
d'accord.
Bien sûr. Alors,
donc vous ne raccrocherez pas parce que Florian va prendre, vous allez prendre notre adresse mail, hein, l'adresse à laquelle vous allez nous donner cette photo, comme ça on le mettra le plus vite possible sur notre groupe de parole.
Oui, je peux vous envoyer la photo de lui et puis la photo avec elle.
Ah non, pas avec elle.
Si vous voulez, non.
Non. Elle, on n'a pas le droit de passer sa photo. Si vous voulez,
d'accord.
Lui, s'il est encore en vie, qu'il n'a pas envie d'apparaître.
Tout son du bois, parce qu'alors ça m'a rendu malade.
Ben oui, vous m'étonnez que ça vous rend malade. Vous m'étonnez.
Ouais.
Mais oui, parce que là, en fait, c'est très curieux. Il aurait donné des nouvelles à ses sœurs, il vous aurait donné sans doute des nouvelles.
Non, plus personne. Il a en dirait. Je dis, est-ce qu'il n'est pas parti quand même ? Parce que j'avais un frère qui habitait en Nouvelle-Calédonie, mais mon frère est décédé. Alors je dis, il n'est pas parti en Nouvelle-Calédonie. Il n'a pas rejoint la ville.
Mais votre frère, vous aurait prévenu peut-être, non ?
Mais bien sûr, mais mon frère est décédé malheureusement.
Bon,
il n'y a
donc,
plus personne là-bas à Nouméa.
Il ne peut pas aller là-bas.
Non.
Je vais vous dire, de toute façon, il y a aussi quelqu'un qui nous a soumis que vous preniez un détective privé.
Attendez, je regarde. Proposé ça aussi.
Bah oui, parce que le détective privé, il aurait... vous avez son numéro de carte de sécurité sociale à votre fils ?
Et non, c'est elle qui avait...
Ah oui, puis elle,
papiers,
bah elle déjà, demandez-lui, vous voyez ? Demandez-lui le numéro de carte sociale, de sécurité sociale.
Mais vous savez, elle s'est mise sur répondeur, on ne peut plus l'avoir.
Ah, oui. Mais elle est quand même très curieuse, elle. Hein.
Elle est curieuse, oui, trouble, c'est vrai. Enfin, au début, comme je vous l'ai dit, j'ai vu cette jolie petite jeune femme blonde, aux yeux bleus, et je vous ai dit mon intuition, j'ai dit, il est tombé avec une chaussure à son pied cette fois-ci.
Oui. Mais alors, une autre question, Aline. Cette maison.
Mais après, je pensais qu'elle allait être... gentille, seulement elle aimait beaucoup les voyages, elle y a fait gaspiller beaucoup d'argent, la Réunion, un peu de partout, en Corse, elle y faisait gaspiller beaucoup d'argent. Hein.
Bon, mais
et lui, il se tuait au travail.
Aline, en fait, ce que je voudrais savoir, moi, c'est est-ce que... ça y est, voilà que j'ai perdu ma question. Est-ce que, la maison... est-ce qu'ils sont propriétaires de la maison ? Est-ce qu'il y a un héritage quelconque ?
Non.
Donc elle n'aurait pas pu lui faire de mal pour avoir l'héritage, par exemple.
Non. Moi,
d'accord.
Non, pas du tout.
D'accord.
Non. Je sais pas qu'est-ce que où c'est qu'il est passé. Et c'est ce que nous voulions faire, mon mari et moi, là, ben, bientôt, je crois, que le déconfinement, on aura
d'accord.
le droit de sortir.
Mais ça, on se l'est déjà dit, Aline.
De 10 kilomètres.
Vous allez nous envoyer une photo, donc d'accord. Mmh. Dès que vous pouvez, il faut que vous rappeliez le commissariat et demander vraiment à parler à un officier de police judiciaire pour dire que vous êtes déjà venu et que vous êtes très inquiet parce que là, personne n'a de nouvelles de votre fils et que vous savez très bien que votre fils a un droit à disparaître puisqu'il a 60 ans, comme vous l'avez dit, mais que il n'y a aucune raison que ce fils ait disparu, en tout cas qu'il n'y a aucune raison qu'il ne donne plus de nouvelles ni à ses parents, ni à ses sœurs, et ni à ses amis.
Hein, voilà.
Même à son ex-copine avec qui tout se passait bien. Il faut vraiment que vous leur disiez qu'il y a vraiment une disparition inquiétante. Est-ce que vous avez ensuite les moyens de contacter un détective privé? Ça reste quand même une des solutions parce que ce détective privé...
Oui, moi j'ai une amie à Menton là qui a...
Et oui, parce que...
Il y a un ami qui est détective.
Bon, mais ça serait bien, je vous explique pourquoi. Oui. Parce qu'il va chercher à partir du numéro de sécurité sociale. Il va chercher par rapport à sa banque. Les détectives privés, vous savez, ils ont certaines entrées. Hein, c'est leur travail. Donc, on va voir si votre fils, en un an, a fait marcher sa carte bleue, si il a subi des soins, si... Vous voyez, il y a plusieurs moyens de vérifier si quelqu'un est encore en vie. Auquel cas, peut-être, a-t-il choisi de disparaître complètement, mais ça paraît quand même, par rapport à tout ce que vous nous dites, très curieux. Alors, vous ne raccrochez pas, Aline, hein, vous restez en ligne, et puis Florian va vous reprendre, vous allez noter notre adresse mail pour nous envoyer la photo, on va la diffuser sur le groupe de parole Facebook qui ensuite repartagera cette photo au plus vite, pour celles et ceux qui le souhaitent et qui le veuillent bien. Et puis on va voir comment tout ça va évoluer. Hein, on va se tenir au courant, d'accord?
D'accord.
Et puis vous lui donnez bien le numéro de téléphone dont on s'est parlé tout à l'heure, avec le nom le prénom et le nom de votre fils, d'accord?
D'accord, entendu.
Et ben,
merci Olivier.
Je vous remercie beaucoup.
Et de votre part.
Je vous en prie et ne raccrochez pas, surtout Aline, d'accord?
Non,
je vous embrasse.
Beaucoup.
Au revoir.
Moi aussi Olivier, au revoir.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Il est minuit 19 sur Europe 1, vous êtes sur votre libre antenne et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer le 3921, Florian est là pour vous répondre. Nous accueillons maintenant Mimitrac au 3921. Allô?
Allô, monsieur Delacroix.
Allô, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Delacroix.
Oui, bonjour, Mimi. Je vous appelle comment, Mimi? Mimitrac, comment je vous appelle?
Oui, vous pouvez m'appeler Mimitrac parce que j'ai craqué en Tovie et puis comme je m'appelle Mireille, pourquoi pas, quoi.
D'accord, très bien.
Voilà.
Alors, qu'est-ce qui vous amène, Mimitrac?
Alors, il m'amène que j'ai beaucoup de mal à comprendre mon état de santé depuis, ça fait deux ans que je traverse des moments vraiment très très difficiles. D'ailleurs, vous voyez, j'ai beaucoup de mal à respirer et à parler, donc je vais essayer d'être la plus claire possible.
Oui.
Alors, je vais commencer par le début, on va dire qu'au mois de janvier 2019, je me suis trouvée à faire une bonne crise d'angoisse et une crise d'asthme à 3h du matin, d'où mon mari m'a transportée directement, avec notre voiture bien sûr, aux urgences. Et de justesse, l'urgentiste m'a fait une intubation et il m'a transportée après sur Montpellier. Et là, je suis restée 3 semaines dans un coma artificiel. Et au retour de ça, j'ai fait des pieds. Enfin, je voulais vraiment essayer de reparler. Quand on est intubé, on a beaucoup de mal après à reprendre la parole et tout. Ce n'est pas trop le souci. C'est surtout que j'ai refait là-bas sur place une autre crise d'angoisse. Et là, j'ai pas eu le choix. Ils m'ont mis une trachéotomie alors que je leur disais je veux pas, je ne peux. Enfin bref, donc ils m'ont mis une trachéotomie que je garde toujours depuis le mois de mars 2019. Vous m'entendez, Olivier?
Oui, je vous entends, je vous entends, je vous écoute. Tout ça est venu à cause de crises d'angoisse, en fait?
Oui. Je remplissais tout bêtement un dossier pour me mettre à la retraite. Et sur ce dossier de retraite, il y avait écrit « Si vous aviez eu des enfants morts-nés, ce qui est notre cas, à mon mari et à moi. » Donc tout de suite, ça m'a fait un retour en arrière de plus de 40 ans. Et alors, je sais pas, le fait de penser à notre petite Séverine, ça m'a complètement angoissée. Et là, complètement, j'ai senti que j'avais du mal à respirer. J'ai tout de suite pris deux bouffées de Ventoline. Et malgré ça, j'arrivais beaucoup de mal à respirer. Mm-hmm. Bah, j'ai pas voulu paniquer. Je me suis dit, bon, ça allait tout de suite crise d'asthme, mais c'est pas grave. Et puis à 3h du matin, j'étais toute bleue. J'avais désaturé à 55. 55 de saturation, c'est pas beaucoup du tout. J'étais bien déjà partie, quoi. Enfin, voilà, donc le service hospitalier m'a redonné la vie. Ça, je leur remercie. Un très, très bon service. Je reproche pas le service. Ce que je reproche, enfin, c'est même pas un reproche, c'est que j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qui m'arrive. Parce que, alors, étant donné que j'avais été mise sous curare, les médecins, plusieurs spécialistes me disent « Vous avez dû faire une réaction au curare. » Alors, bon, certes, peut-être. Mais, ou alors, vous avez les synapses que j'ai abîmées dans ma boîte crânienne, des synapses. Alors là, c'est plus médical encore. Moi, je ne comprends pas beaucoup ce qui m'arrive. Toujours est-il que, à force de poser des questions, ils m'ont répondu. Ils me disent que j'ai su mon état de santé en trois étapes. La première étape, c'est vous avez les cordes vocales paralysées en position fermée. Bon, ben voilà quoi.
Vous avez Vous avez quoi?
Les cordes vocales en position fermée.
D'accord.
Voilà, d'où l'air de... Enfin, ça passe plus du tout. Les cordes vocales étant paralysées, je ne pouvais plus parler, plus rien, bien sûr. Et alors, ils m'ont dit, bon, on va essayer de vous faire de la cordotomie. Donc, j'en ai quand même, Olivier, subi 5 dans 2 établissements différents sur Montpellier pour un résultat qui est complètement négatif, quoi. Et les cordotomies, c'est donner des coups de laser sur les cordes vocales pour former une filière, pour que l'air arrive à passer. Dans mon cas, moi, ça n'a pas réussi du tout. Donc, les mois ont défilé. Et puis après, le chirurgien me dit, mais vous avez le larynx collapsé. Alors, bon, collapsé, c'est pas un mot que je connaissais, mais après, il m'a dit, c'est un effondrement, madame. Voilà, je ne vais pas dire mon nom. Mimi, c'est un effondrement, donc vous avez le larynx complètement effondré. Alors, je comprends pas pourquoi je suis comme ça, Olivier, c'est ça le problème. Je n'ai pas fait de tumeur, je n'ai pas de cancer. Simplement, c'est le fait d'avoir été intubée et extubée 3 semaines après. Ça m'a complètement abîmée la gorge.
Vous pensez que c'est l'intubation qui vous a abîmé les cordes vocales?
Oui, c'est ce qu'ils me disent quand même. C'est très rarissime, mais il est possible que le fait d'être intubé abîme. Et moi, dans mon cas, ça m'a sacrément abîmé, oui. Parce qu'attendez, Olivier, c'est pas fini. Alors, étant donné que j'ai su que j'avais donc les cordes vocales paralysées en position fermée, après, on me dit que j'ai le larynx collapsé. Alors là, il a fallu que je fasse des efforts pour accepter mon état de santé. Bon, je suis très entourée. Hein. Donc, de ce côté-là, je me suis dit, Mireille, va de l'avant. Et puis finalement, le chirurgien m'a proposé pour le 3 novembre 2020 une thyroplastie avec attaqué cartilagineux. Alors, je peux vous dire, monsieur Delacroix, je suis allée, mais je voulais absolument me faire opérer parce que c'est tellement difficile de respirer comme ça tous
ben
les
oui,
jours.
Vous m'étonnez, bien sûr.
Voilà. Et bien là, il m'a dit, vous allez d'abord passer un examen qui s'appelle un EFR. C'est exploration fonctionnelle respiratoire. Alors, je me suis exécutée, j'ai été voir avec un professeur, toujours sur Montpellier, qui lui m'a mis directement sur une machine, m'a accroché avec ma trachéotomie.
Oui.
C'est pour connaître la capacité respiratoire. Et Olivier, il s'avère que je respire 80%. Alors, parce que le curare m'aurait abîmé tout l'arbre respiratoire de mon nez, on va dire, parti d'en haut jusqu'en bas, jusqu'à la base de mes poumons. Donc, je dois vivre avec une capacité respiratoire de 30%.
Ouais.
Et ça, je ne sais que depuis peu.
Et en fait, parce qu'on n'a plus que 3 minutes, Mimi, en fait, vous allez continuer à vivre avec cette capacité réduite ou ça peut s'améliorer? Est-ce qu'il y a une échéance de prévue bientôt?
Non, voilà, le chirurgien me dit j'aurais bien aimé vous opérer pour faire une thyroplastie avec le taquet cartilagineux, mais je ne suis pas en mesure de vous faire parce que l'opération est vraiment trop, trop risquée. Elle m'a dit, dans votre malheur, vous arrivez encore maintenant à parler, parce que voilà, je réussis à parler, mais vous réussissez encore à boire et à manger, mais par contre, il faut rester comme ça, donc je n'ai que 64 ans bientôt, et je me dis, mais j'aurais voulu savoir si, de votre côté, monsieur Delacroix, que vous pouvez, je ne sais pas, lancé comme un appel, je voudrais parler à d'autres personnes qui ont été cratéonisées comme moi ou qui le sont encore.
Eh ben, écoutez, Mimi, ce qu'on va faire, c'est que l'appel est lancé ce soir.
Merci.
S'il y en a certaines qui vous écoutent, et puis le podcast va être mis en ligne à partir de demain. Donc, d'autres personnes vont l'écouter. Et puis, bien évidemment, nous vous ferons passer les coordonnées des gens qui souhaitent vous faire part de leur expérience si elles ont vécu la même chose. Ça vous va comme ça?
Ah oui, bien sûr, Olivier. C'est ce que je recherche.
D'accord,
pour savoir.
D'accord.
Bien sûr, pour remonter un petit peu
tout
ça.
Je me doute. Bah, écoutez, je vous promets que ça sera fait. Si on a le moindre numéro de téléphone ou la moindre adresse mail, pardon, on vous la fera passer, Mimi. D'accord ?
Oui, d'accord, je vous remercie.
Je vous en prie, je vous embrasse et bon courage à vous.
Oh oui, c'est
au revoir.
Pas facile.
Mais oui, je me doute. Au revoir.
Au revoir, Olivier. Merci à l'équipe. Au revoir.
Au revoir.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Minuit 29 sur Europe et nous accueillons maintenant. Alors, on a eu un petit problème technique. Nous avions une personne en ligne, mais cela a coupé. Écoutez, on va écouter un petit peu de musique et puis on va retrouver très vite un témoignage juste après. À tout de suite.
Driving in the wrong lane.
Phonique Mad About You.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Minuit 33 sur votre libre antenne et sur Europe 1. Et nous accueillons maintenant Josiane au 3921. Bonsoir Josiane.
Oui, bonsoir Olivier.
Bonsoir. Comment allez-vous Josiane?
Il y a toujours des oui, des bas très fréquents dans la nuit, dans la journée. Là. Pour l'instant, du fait que je vous parle, ça va mieux.
Bon, c'est déjà ça. Qu'est-ce qui vous amène exactement, dites-moi.
Comme je disais à Florian, si je devais expliquer tous mes petits problèmes très différents, je devrais vous appeler tous les soirs.
Eh bien oui, mais il faut essayer. Hein. On est là pour ça.
D'accord. Alors, ce soir, j'avais deux problèmes très différents. Je ne sais pas si je peux exposer les deux.
Ben, essayons. Et puis, commençons par un, déjà.
Bon, ben alors, par un. Le premier, c'est que... Alors, c'est une histoire de mort. Je pense souvent à ma mort, j'ai 68 ans. Hein.
Oui.
Je pense souvent à ma mort, je suis veuve depuis 4 ans. Mm-hmm. Je pense souvent à ma mort, mais non pas dans la crainte de mourir, mais dans la crainte de ce que je vais laisser par rapport à mes petits-enfants, par rapport au travail que ça va provoquer à mes enfants pour s'occuper de mon enterrement, etc. Mm-hmm. Et donc, ce n'est pas la peur en soi qui me fait peur, c'est ce que je vais laisser, puis je pars.
D'accord. Et en fait... cette mort, en fait, vous la craignez parce que vous êtes malade ou est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment au niveau de la...
Justement, je touche du bois, j'ai une bonne santé. J'ai quelques petits problèmes comme tout le monde, mais je suis suivie et puis il n'y a rien du tout de grave.
Mm-hmm.
Je fais un petit il y a eu deux choses. Donc, le décès de mon mari il y a 4 ans, qui m'a obligée à quitter une maison et à venir habiter dans une ville en appartement. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes conditions.
Mmh.
Et puis, je pense aussi qu'il y a ce confinement que j'ai eu pendant un an. Et comme j'ai eu très, très peur de cette maladie, je suis restée beaucoup enfermée par moi-même, outre les conditions données par le gouvernement. J'en ai même rajouté moi-même. Et maintenant, en commençant à en sortir un tout petit peu, mais j'ai toujours... Là encore, avant de vous appeler, d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai appelé, parce que j'étais en train de penser, calculer quel âge auraient mes petits-enfants quand moi j'aurai 80 ans, si je pouvais tenir jusqu'à 80 ans, voir s'ils arriveraient à faire ça. En fait, je me sens toujours indispensable quelque part.
Oui.
Alors j'ai peur que le fait de disparaître, mes enfants, mes petits-enfants, ils vont être... Alors que je sais très bien que non, ils vont continuer leur vie, mais j'arrive pas à m'enlever ça de la tête, que sans moi, ils vont être perdus. Je vais leur provoquer du travail, je vous ai dit, en enterrement, en trier mes papiers, vider mon appartement, tout ça. Et c'est ça qui me tracasse, et qui m'empêche de dormir bien souvent.
Mais alors, en fait, ces crises d'angoisse, elles vous prennent à quel moment exactement? Parce que on peut être angoissé par... la mort, comme ça, ça peut être une idée qui vous colle comme ça à la peau et dont on a du mal à se défaire. Il y a plusieurs possibilités, hein. On peut faire plusieurs choses pour s'en défaire, mais je voudrais savoir dans quel type de situation ces angoisses vous prennent et ces obsessions, finalement.
Oui, c'est ça, en fait. Dans la journée, comme j'arrive à m'occuper, j'y pense pas trop, ou alors... J'y pense, mais je dis, bon, il faudrait que je prépare mes papiers pour qu'ils sachent qu'il doit faire en cas de décès. Mais bon, j'ai un peu tendance à remettre parce qu'il y a d'autres occupations qui m'intéressent. Mais par contre, le soir, alors c'est ce que je disais à mon médecin traitant, je présume que vous connaissez le logiciel Excel.
Oui, oui, bien sûr.
Alors, tous les soirs, c'est ce que je disais à mon médecin traitant, le soir, avant de m'endormir, mon cerveau se met en mode Excel. Il faut toujours que je calcule quelque chose, instinctivement. Par exemple, savoir quand est-ce que va tomber le 1er mai, quand est-ce que va... Et je calcule, bon, on est 15 jours, donc dans 15 jours, on sera 15 jours.
Oui.
Et là, en ce moment, c'est calculer quel âge mes petits-enfants auront, si moi j'arrive à tenir jusqu'à 80 ans. C'est toujours calculé, et surtout le soir. Par exemple, la journée aussi, mais dans la journée, j'arrive à gérer. Mais le soir, une fois que je suis dans mon lit, là,
oui, c'est là que ça vous prend. Est-ce que vous prenez, des choses pour dormir? Comment faites-vous le soir alors?
Que direz-vous, là je vais être honnête avec vous, Olivier, là j'ai déjà pris deux médicaments pour calmer, c'est pas des somnifères, c'est des anxiolytiques.
Mm-hmm.
J'en ai déjà pris deux, puis je pense que vous sentez bien que je parle correctement. Hein.
Oui, oui, bah, bien sûr, vous parlez correctement.
Donc ils font aucun effet pour l'instant.
Les anxiolytiques... il ne faut pas en prendre jusqu'à vous abrutir. Hein. Je vais vous donner vraiment quelque chose pour le soir. Vraiment
oui.
un truc pour le soir. Il faut que
oui.
vous achetiez des petits écouteurs.
Oui.
Vous savez, des petits écouteurs Bluetooth, là, ou quelque chose qui se relie à votre... Alors, soit un lecteur MP3, parce que j'attends déjà les SMS qui vont me dire « Le Bluetooth, ce n'est pas bon pour la santé ». J'en conviens, bon, même si moi je le fais tous les soirs, mais c'est comme ça. Et puis chacun fait ce qui lui plaît. Mais comme vous vous décrivez comme une femme anxieuse dès que finalement le mouvement se ralentit et que vous êtes livrée à vous-même et que vous n'avez qu'à penser à ça, en fait.
Oui, bien sûr.
Je pense qu'il faudrait que vous occupiez votre esprit au moment où vous allez vous coucher. Pour occuper son esprit, il y a plusieurs choses, mais dont une qui marche très bien. En tout cas, moi, je ne suis pas un angoissé, mais au moment de se coucher, je pense que c'est commun à beaucoup d'entre nous qui sommes réunis ce soir. Au moment de se coucher, on pense à tout un tas de choses. Alors, ça peut être lié à la famille, ça peut être lié au travail, ça peut être lié à tout un... même un état de stress... on pense peut-être à des rendez-vous qu'on a dans la semaine, à des échéances, vous voyez, en tout cas, on pense... Bon, vous, voyez, vous pensez à votre mort. Vous pensez à des choses négatives. Il faudrait que vous écoutiez quelque chose. Il faudrait que votre esprit soit écouté, que vous vous concentriez sur des histoires, vous voyez, quelque chose qui vous occupe l'esprit.
Je peux vous interrompre, Olivier ?
Allez-y, je vous en prie.
Alors justement, c'est ce que je fais tous les soirs en écoutant votre émission.
Oui.
Mais quand j'écoute la radio, je m'endors. Donc quelque part après, le fait d'entendre du bruit, ça m'agace, donc je l'éteins.
Mm-hmm.
Mais deux minutes après de l'avoir éteint, je me réveille, donc je la rallume. Et je peux faire ça 10 fois dans la soirée. Enfin, tout le temps de votre émission.
Et pourquoi vous l'éteignez ? Pourquoi vous l'éteignez ?
Parce que quand je m'endors, après, à la limite, le bruit me dérange.
Vous réveille, d'accord.
Mais croyant que je vais dormir, puisque je m'étais endormie.
Mm-hmm.
Mais dès que je l'éteins, je me réveille.
Ouais.
Et puis 5 minutes après, je dois la rallumer. Et puis c'est un jeu sans fin.
Mais il faut le laisser allumer. Il faut le laisser allumer. Exactement. Je vais vous dire pourquoi. Parce que après, en fait, la meilleure des choses, hein, quand même, c'est que vous puissiez écouter des podcasts à ce moment-là. Puisque l'émission...
Oui.
Vous aide à vous endormir, à écouter ces témoignages, vous aide à écouter tout ça. Donc, il faut aller sur YouTube ou il faut. Vous voyez, on a les podcasts dans les yeux d'Olivier que le studio Europe 1 produit depuis maintenant une dizaine de jours. Vous pouvez vous brancher un podcast et puis écouter l'histoire. Alors, il y a aussi. Mon avocat et moi, ou mon client et mon avocat, mon client et moi, ça s'appelle, merci Philippe, il y a Christophe Ondelat, il y a des podcasts sur europe1.fr, par exemple, que vous pouvez trouver même sur YouTube, c'est facile, et vous mettez une lecture non automatique, c'est-à-dire qu'à la fin du programme que vous avez sélectionné, qui fait un quart d'heure, 20 minutes, eh bien, vous pouvez ensuite vous assurer que ça va s'éteindre tout seul. Vous voyez ?
D'accord.
Et là, en fait, quand vous vous réveillez, si vous vous réveillez, eh ben vous reprenez cette histoire. Parce que généralement, vous savez, quand on écoute une histoire, moi, parfois, la même histoire, elle me fait la semaine. Parce qu'au bout de 2 minutes, je m'endors.
J'ai... Oui, quand vous écoutez le...
Eh ben, quand vous... Vraiment, quand votre corps est fatigué, il suffit que votre esprit se concentre sur l'histoire pour que vous ne pensiez plus à rien. Maintenant, il faut faire vraiment l'effort de vous concentrer sur l'histoire et de bien écouter l'histoire et de ne penser à rien d'autre. Mais vous arrivez à le faire avec la radio, vous voyez. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui sont... C'est pas mal quand même.
J'ai un smartphone, j'ai des oreillettes, enfin je sais pas comment on appelle ça, pour mettre aux oreilles.
Oui.
Et donc j'ai tout ce qu'il faut en fait apparemment pour faire ce que vous me dites.
Bah, vous avez oui, je pense que vous avez tout ce qu'il faut, mais maintenant il faut réussir à le faire vraiment. Il faut que vous arriviez à vous imposer de le faire et c'est vraiment une technique qui marche.
Ah oui, je vais essayer de m'asseoir, hein, pas de souci.
Bah c'est dès ce soir même, dès ce soir.
Oui,
essayer dès ce soir.
D'accord, je verrai si ça marche. Mais oui, si j'arrive à me concentrer sur ce que j'écoute, c'est vrai que le cerveau finit par s'endormir. Et... D'accord. Ok, bah, j'étais informée.
Alors Marc vous dit que si, parce que... Il a raison, Marc, mais il me dit « Vos émissions me tiennent éveillé. » Donc, pardon, ça peut vous donner aussi peut-être cet effet-là, mais Marc vous soumet au 739-21 d'écouter la philosophie sur YouTube. Il y a Spinoza, par exemple. Vous voyez, il y a des philosophes.
Ah oui,
ça peut être...
Ça me rappelle mon jeune temps. Oui, je pourrais l'écouter, oui. Ça me rappellerait Spinoza, ça me rappelle mon jeune temps, quand j'ai étudié. D'accord. Allô ?
Alors, Françoise nous soumet une idée. Elle dit que ce serait apaisant de prendre un contrat obsèque. Cela serait rassurant pour vous, peut-être, de remplir ce contrat obsèque. Qu'est-ce que vous en pensez ?
J'en ai un.
D'accord, d'accord.
En fait, j'ai pris toutes les précautions quand même... En fait, ce qui me tracasse, moi, c'est de... je vous dis, c'est surtout de savoir que mes petits-enfants, bon, disons que si j'ai jusqu'à 80 ans, ça fait encore 12 ans. Donc, le dernier, il a 5 ans. Ben, il n'aura que 17 ans. Et je sais qu'ils sont fort attachés à leur grand-mère, mais, enfin, moi. Comme on ne s'est pas beaucoup vu à cause du confinement, ben, j'ai l'impression que maintenant, les années, elles sont très courtes de ce qui me reste à vivre. En fait, c'est ça. J'ai l'impression que j'ai plus le temps de profiter de...
Mais oui, mais il faut que vous arrêtiez de penser comme ça, parce que si ça se trouve, vous allez nous faire une centenaire, ça veut dire qu'il vous reste 32 ans à vivre, et donc c'est une moitié de vie, hein, 32 ans, c'est magnifique.
Ouais.
Donc personne, ni rien ne doit vous amener à penser que vous allez mourir comme ça. C'est à la mort que vous pensez ou au fait que vous allez mourir bientôt?
Je pense qu'il m'aurait... J'ai pas vu le temps passer, en fait, hein, de toutes les années arrière. Et j'ai l'impression que ce qui est vraiment très court par rapport à ce que j'ai passé, j'ai l'impression de ne pas encore avoir profité suffisamment de la vie et qu'il me faudrait encore 40, 50 ans pour
pouvoir
profiter.
Eh bien oui, mais on est plusieurs à avoir ce même type de problème.
D'accord.
Vous savez, vous n'êtes pas la seule. Il y a beaucoup... moi, le premier, j'aimerais me dire que j'ai encore 70 ans devant moi.
Voilà,
j'adorerais.
Même chose à faire.
Voilà, vous me proposez une deuxième vie, je signe tout de suite, moi. Parce que la vie est magnifique. Donc, il faut en tout cas faire en sorte qu'elle soit magnifique. Il y a Emmanuel qui vous conseille aussi Lubzinski sur YouTube. Ce sont des séances d'hypnose. Vous voyez, il y a visiblement tout un tas d'auditrices et d'auditeurs qui ont ce même type de problème et qui pratiquent YouTube à écouter des choses et à se concentrer.
Moi, je me suis levée pour prendre un crayon. Quel nom vous venez de citer ?
Lubzinski. Lub, L-U-B.
Oui.
S-I-N-S-K-I. Lubzinski. Oui.
D'accord.
Et puis, donc voilà. Bon, alors, abordons le second problème maintenant. C'est quoi le second petit problème ?
Alors, le second problème. problème, c'est problème de, enfin, c'est même pas un problème de conduite. C'est dès que j'ai, par exemple, un rendez-vous ou bien aller chez mon fils ou chez ma sœur. Mon fils n'a pas tout pris. Il y en a un qui habite à 30 km, l'autre à 100 km et l'autre habite en Haute-Savoie. Et moi, je suis tout à fait en haut de la France. C'est alors, pour que vous compreniez quand même, j'ai toujours conduit. En 2003, j'ai eu un emploi qui était juste à côté de mon domicile, donc oui. Je n'ai plus dû conduire. Pendant 10 ans, j'ai travaillé là sans devoir conduire. Et après, mon mari était en retraite, et dès qu'il fallait se déplacer, je demandais que ce soit lui qui conduise. Mm-hmm. Donc en fait, j'étais de 2003 jusqu'à son décès 2016 à ne pas aimer conduire et à ne pas devoir conduire si je ne voulais pas. Mon mari était là. Donc depuis 2016 que je suis veuve, et en plus j'ai déménagé, j'ai changé de ville, j'ai une appréhension, ne serait-ce que de devoir savoir que je dois sortir ma voiture. Je ne sais plus ni manger, ni m'occuper, ni regarder la télé, ni lire un livre. Au moins, si je dois partir à 11h du matin, dès que je me lève le matin jusqu'à 11h, je ne sais plus rien faire, je suis malade. Tout ça parce que je dois prendre ma voiture.
Ah oui,
il n'y a pas très longtemps, j'ai dû faire une course dans un magasin que je ne connaissais pas très bien la route, qui est à 10 minutes de chez moi. Mmh. J'étais contrariée, j'ai du mal à prendre ma voiture pour y aller.
Oui. C'est embêtant tout ça. C'est, franchement, et donc ça c'est encore des vous appelleriez ça des crises de panique
de l'angoisse, oui, c'est de l'angoisse en fait.
De l'angoisse.
C'est même pas de la panique, c'est plutôt de l'angoisse. C'est l'angoisse de savoir que je dois sortir. Alors j'ai peur de sortir ma voiture parce que je suis dans un parking souterrain puisque c'est un immeuble. Alors je pense à plein de trucs. Hein. J'ai peur que la grille elle se bloque au moment où je sors la voiture. Après j'ai peur que je recroise quelqu'un qui roule mal et qui me rentre. En fait je crains pas ma conduite à moi parce que sans vanter, je conduis comme mon mari m'a toujours dit que je conduis très bien et même d'autres personnes. Mm-hmm. Mais j'ai peur des autres. J'ai peur des autres qui roulent vite. J'ai peur de me perdre quand je ne connais pas très bien la route. Enfin, c'est toujours une angoisse de tous.
Vous êtes une stressée quand même. Hein.
Ah oui, ça c'est... Tous les médecins m'ont dit depuis toujours.
Oui, je suis très stressée. Vous êtes très stressée. Et est-ce que vous faites un peu de yoga ou de choses comme ça pour vous détendre? Est-ce que...
Non, justement. Non, pour l'instant, je ne fais que de la marche, beaucoup de marche, mais pas de...
C'est très bon, la
pas
marche.
De sophrologie.
Vous voyez, le soir, Carlotta vous dit aussi au 739-21 que vous pouvez entrouvrir votre fenêtre. Vous mettez de l'huile essentielle bio de camomille romaine, radio en sourdine avec la libre antenne, et puis vous faites un livre qui vous fait bien vous évader, et ça peut vous donner envie de... il faut que vous vous occupiez l'esprit. Alors... ça, c'est pour le soir pour dormir. Hein. Mais cette problématique d'avoir du mal à dormir, hein, bien évidemment, bon, je ne vais pas vous dire que c'est compliqué hein, d'avoir du mal à d'avoir ces angoisses pour conduire. Mais vous pouvez, encore une fois, remédier en étant un peu factuel. Vous m'avez dit, je conduis très bien. Je n'ai généralement...
me dit autour de moi, mon mari, mes amis, tout le monde me dit que je conduis très bien, que je suis... Oui, que je conduis bien. Moi, je ne peux pas dire que je réagis bien au rond-point, au feu, j'ai une conduite réactive quand il faut, mais douce pour quand tout va bien. Enfin, je crois que je peux dire que je conduis bien, oui.
Donc voilà, donc, il faut quand même que vous soyez raisonnable hein, et que factuellement, vous fassiez la part des choses parce que vous conduisez bien. Vous avez plus peur des autres, en fait, si j'ai bien compris. Vous avez
c'est ça. Ouais. Oui.
Vous avez peur de...
Peur de me perdre quand je ne connais pas. Ça, c'est mon angoisse aussi. Pourtant, j'ai un GPS, j'ai Waze sur mon smartphone, j'ai encore un autre truc, mais je n'ai pas confiance en moi, en fait. Donc, si je ne connais pas la route, je panique, j'ai peur, je fais des bêtises. Limite, je prendrais... Enfin, je ne le fais pas, mais limite, je prendrais un sens interdit tellement je panique. Donc, c'est un gros problème de conduite pour ça. Mmh. Je n'avais pas autrefois quand je conduisais. Hein,
Et ça fait combien de temps, en fait, que vous avez ces problèmes d'angoisse au volant?
En fait, tant que j'avais mon mari jusqu'en 2016, quand je ne voulais pas conduire, que je devais me rendre dans un lieu de rendez-vous de médecin ou quoi que ce soit, je lui demandais de me conduire, il me disait oui, forcément. Donc là, c'est du jour, en fait, qu'il est décédé en 2016. Et en plus, que c'est là que j'ai quitté la ville où j'habitais pour venir habiter dans une plus grande ville. Donc, c'était à la fois le décès de mon mari et mon déménagement.
Ouais.
Enfin, mon emménagement dans une nouvelle ville.
Ouais, mais vous êtes une angoissée, donc... Le souci, c'est que vraiment, il faut se sortir ces angoisses de la tête. Il faut vraiment essayer de bien respirer avant de conduire, de bien vous calmer. Alors, bien évidemment, pas prendre d'anxiolytique avant de conduire, bien évidemment, parce que ça, c'est dangereux. Il va falloir absolument, Josiane, vous... prendre des décisions quant à faire du yoga ou faire du EMDR, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, des exercices en fait, ou même de l'hypnose, vraiment pour travailler sur ces angoisses. Il faut vraiment
pensé à l'hypnose.
Preniez cette décision parce que vous allez remarquer les progrès que vous allez faire et vraiment, il ne tient qu'à vous hein, vraiment de bien respirer, de vous raisonner en fait parce que évidemment c'est dangereux hein, la voiture c'est faut toujours faire attention, c'est toujours un moment qui peut être délicat, mais généralement quand on fait bien attention, quand on ne conduit pas trop vite et qu'on est détendu. Parce que moi, je vais vous dire, je suis en moto à Paris, par exemple. C'est un vrai spectacle pour moi, la moto à Paris, parce que je vois tous ces gens énervés, ces gens excités qui se crient dessus, qui ceux qui conduisent extrêmement mal. Mais vous vous apercevez en fait que quand vous faites attention, quand vous appréhendez bien votre conduite, eh bien, il ne peut rien vous arriver. Après, j'ai envie de vous dire, c'est la faute à pas de chance. Hein j'ai un ami, moi, qui a eu un accident. Il était à l'arrêt, un stop. Et quelqu'un est venu lui rentrer dedans à l'arrêt. Comme ça, il était à l'arrêt. Donc, vous voyez, on ne peut pas appréhender des moments comme ça. On ne peut pas se dire, ça va m'arriver à moi. C'est du domaine de la synchronicité. C'est parce que, il y a deux personnes qui, hop, d'un seul coup, se télescopent et on ne sait pas pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment le fait du hasard. Donc, pour mettre tout...
Moi, je vous interromps, Olivier, mais c'est du hasard. Mais moi, malheureusement, c'est à ça que je pense chaque fois que je prends le volant.
Et oui, mais ça n'est pas raisonnable. Ça n'est pas raisonnable, ça. Et je pense que vous pouvez essayer de travailler dessus, Josiane.
D'accord.
Il faut essayer de travailler dessus parce que je pense que vous pouvez vraiment le résoudre, ainsi que vos problèmes de sommeil. Il y a une solution à tout. Le tout, c'est d'abord d'y croire.
Oui.
Et puis, la première étape, c'est de faire les choses pour que ça se passe. Hein. C'est la première étape. Pour avancer, c'est prendre des décisions et faire en sorte que on fasse des choses pour nous faire avancer. Donc, vous, en ce qui vous concerne, pour le sommeil, je vous ai dit ce qu'il fallait faire, mais pour quand vous prenez le volant, c'est pareil, il faut que vous respiriez bien, que vous branchez un petit truc dans la voiture, pareil, un petit podcast, quelque chose que vous écoutez, et puis vous vous concentrez bien sur votre conduite à vous. Il ne faut pas que vous considériez les éléments extérieurs, il faut que vous les appréhendiez bien comme il faut, mais que vous vous concentriez bien. Il n'y a aucune raison qu'il vous arrive quelque chose, Josiane.
D'accord.
Et c'est surtout quand on appréhende ça qu'on peut faire des mouvements. On peut faire des bêtises au volant quand on a peur.
Oui, je crains ma réaction en cas de panique, que je fasse n'importe quoi, alors que je conduis bien. Mais je me dis, si je panique pour X raison. Comme j'ai fait le jour de mon permis de conduire qui remonte à très loin, j'ai fait une grosse bêtise parce que tellement j'étais angoissée et paniquée que j'ai carrément pris un zébra avec l'inspecteur à côté de moi. J'ai carrément tourné un zébra et rentré dans un sens interdit alors que j'avais de très bonnes leçons de conduite. Mais là, la panique a fait que j'étais n'importe quoi. Mmh. Je crois que j'ai toujours été très angoissée. Hein. Donc ça, c'est...
Et oui, c'est ça.
Et en fait, c'est un peu lié, mes deux problèmes sont un peu liés. Hein, tout vient
oui, bah parce que vous devez être fatigué. Hein. Mais déjà, ouais. Vous faites en sorte de faire de l'hypnose ou de faire de l'MDR pour essayer d'aller vous détendre un peu et d'aller peut-être mettre un doigt sur ces sensations qui vous pourrissent la vie finalement, qui vous angoissent, apprendre oui. En fait à gérer ses pensées, à se concentrer sur soi, à se raisonner, à bien respirer et donc à bien se concentrer même sur sa respiration en se disant je suis là, je respire bien, il n'y a rien qui peut m'arriver maintenant, je suis plutôt bien là, je vais aller d'un point A jusqu'à un point B, je vais bien me concentrer. Enfin, il y a tout D'accord. un tas de travail, il y a un travail que vous pouvez faire sur vous vraiment, Josiane. Souvent on subit hein, ce stress parce que on se l'invente. La tête.
Et puis moi, je vois souvent le. Excusez-moi, je vous interromps. Excusez-moi. Je vois toujours le côté négatif des choses. Alors que du positif, il y en a, mais je vois toujours ce côté négatif.
Oui, parce qu'il y en a dans votre vie, hein, du côté positif.
Bah oui, certainement. Je pense, mais c'est pas. Je suis pas au bout du rouleau, hein. C'est des petits problèmes de la vie de tous les jours, mais qui me pourrissent la vie, quoi, en fait. C'est des...
Mais faites ce que je vous ai dit. Essayez de faire de D'accord. la relaxation, ou du yoga, ou de l'hypnose, des choses qui vous font du bien. Et puis, essayez D'accord. de bien dormir le soir, là, de faire comme je vous ai dit, ok?
D'accord, entendu, Olivier.
Je vous embrasse bien fort, ma chère Josiane.
Merci beaucoup. Au revoir. Et peut-être à une prochaine.
À une prochaine, quand vous voulez, au revoir.
D'accord, merci, au revoir.
Merci à Marlène au 739-21 pour ses gentils mots concernant les émissions de Dans les yeux d'Olivier. Merci beaucoup Marlène, ça fait toujours plaisir ce genre de message. C'est la fin de cette émission qui a été... oui, très courte. 1h30, c'est dingue, comme ça passe à une vitesse incroyable. Demain, nous récupérons le rythme normal, chers amis. À 22h30, vous retrouvez votre libre antenne. Et peut-être, dès maintenant, pouvez-vous penser à m'appeler demain soir. Et puis peut-être, j'aurai le plaisir d'échanger avec vous. En attendant, eh bien, comme d'habitude, comme j'ai conseillé à Josiane, respirez bien. Il est presque 1h du matin, donc il est grandement temps d'aller se coucher ou peut-être de vaquer à des occupations nocturnes quand on est un oiseau de nuit. N'oubliez pas qu'ici on vous aime et qu'on vous donne rendez-vous demain soir.